Mesdames et messieurs, chers amis, Votre Excellence, Madame l'Ambassadrice du Mexique à Paris, et chers amis mexicains, au nom de l'amiral Koldefi, président de France Amérique, de notre conseil d'administration et en mon nom personnel, je m'appelle Aubin González et je suis secrétaire général de France Amérique. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'occasion de ces célébrations marquant les 200 ans de relations entre la France et le Mexique. Deux siècles constituent un jalon exceptionnel, mais l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui dépasse le seul cadre diplomatique. Il raconte la rencontre durable de deux nations qui, malgré la distance géographique, n'ont cessé d'échanger, de s'inspirer mutuellement et de bâtir des passerelles entre leurs sociétés. Le programme de cette soirée, bâti par mon ami, en témoigne admirablement. Des idéaux, des lumières qui ont nourri la réflexion de Miguel Hidalgo, aux échanges intellectuels autour de Benito Juárez, des œuvres d'Angel Sarraga, professeur, aux écrits d'Octavio Paz et de Loclésio, c'est toute la richesse d'un dialogue culturel, scientifique et humain qui se dévoile devant nous ce soir. Cet anniversaire est également une invitation à regarder vers l'avenir. Le 14 mai dernier, la France et le Mexique ont renouvelé leur partenariat stratégique à travers l'adoption d'un plan d'action modernisé qui témoigne de leur volonté commune de répondre ensemble aux grands défis contemporains. Qu'il s'agisse de la transition écologique, de la gouvernance numérique, de la promotion des droits humains, de la diplomatie féminine, nos deux pays affirment leur engagement en faveur d'une coopération ambitieuse dans un monde marqué par l'incertitude et les recompositions géopolitiques. Cette convergence est particulièrement visible sur plusieurs enjeux structurants. La France et le Mexique comptent parmi les acteurs qui promeuvent une grande participation des femmes au processus de décision et une approche plus inclusive de l'action internationale. Ils partagent également un attachement profond au multilatéralisme et à la recherche de solutions collectives aux défis globaux. À une époque où les tensions internationales favorisent parfois le repli et la polarisation, leur partenariat démontre que le dialogue, la confiance et le respect mutuel demeurent les leviers essentiels de coopération. C'est précisément la vocation de France Amérique. Depuis sa fondation en 1909, notre institution œuvre au rapprochement entre la France et les peuples du continent américain, dont surtout le Mexique. À ce titre, elle a accompagné plus de la moitié de l'histoire que nous célébrons aujourd'hui, soit un siècle. Au fil des décennies, elle a réuni diplomates, intellectuels, artistes, entrepreneurs, scientifiques et responsables publics afin de favoriser les échanges entre les sociétés du continent américain et la France. Nous sommes convaincus que les relations internationales ne se construisent pas uniquement dans les chancelleries ou autour des tables de négociation. Elles prennent également racine dans les rencontres humaines, les échanges intellectuels, les collaborations scientifiques et les initiatives de la société civile. Elles se nourrissent de la connaissance mutuelle, de la confiance et de l'amitié. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette mission. En revisitant deux siècles d'histoire partagée, nous célébrons pas seulement un héritage remarquable, nous contribuons également à préparer l'avenir. Comme l'écrivait Carlos Fuentes, « Le futur a un passé ». Cette phrase résonne tout particulièrement ce soir, car si nous célébrons deux siècles de relations entre la France et le Mexique, c'est aussi pour mieux imaginer les formes que prendra cette amitié au cours du siècle à venir. Je tiens à remercier tout particulièrement vous, Dominique, mais aussi vous, Corina, soit les amis du Mexique, avec qui finalement on travaille tout au long de l'année. Il y a une soirée ici qui marque un rythme festif, mais qui montre aussi toute la culture dans sa diversité du Mexique. C'est la Posada, qui est aussi une marque pour nous assez importante, puisque c'est le seul moment de l'année où les enfants sont permis à France Amérique. Et ça montre aussi que c'est une société qui place au cœur de ses valeurs les enfants, l'enfance. Et finalement, on remercie également l'ambassade du Mexique. Et on vous remercie aussi chaleureusement, Madame l'ambassadrice, pour votre présence ce soir. Je cède la parole aux experts, aux professeurs et aux amis franco-mexicains. Et vous, Dominique, en premier chef, hein, c'est ça.
Merci, merci beaucoup. Là. Merci, Aubin, tu as tout dit. Alors, il me reste surtout le devoir très agréable de remercier tous ceux qui sont parmi nous ce soir, et à commencer par Madame l'ambassadrice, bien sûr, du Mexique en France, Monsieur le député des Français du Mexique, et bien entendu, au premier rang de tout le monde, peut-être, France-Amérique, qui depuis des années nous offre ces merveilleux locaux pour organiser toutes sortes d'événements. Aubin a parlé de la Posada, qui a toujours lieu évidemment en décembre, et qui réunit beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, et des piñatas et beaucoup d'activités diverses et variées. Mais ce soir, nous célébrons un autre événement qui est effectivement celui que nos décideurs, nos chefs d'État, ont décidé de marquer d'une croix, c'est-à-dire les 200 ans de la relation. On a d'abord dit les 200 ans des relations diplomatiques, mais c'est faux. Donc on a inventé les 200 ans de relations de l'amitié entre la France et le Mexique. Les relations diplomatiques proprement dites, je crois que c'est 28. Mais enfin, en 26, on peut célébrer l'amitié, c'est sûr. Alors nous avons essayé pour cette soirée de montrer quelques aspects, mais parmi beaucoup, beaucoup d'autres, de ce qu'ont été les relations entre la France et le Mexique. Et vous avez une espèce de pot-pourri qui a été monté et qui va relier un certain nombre d'interventions depuis ceux qui nous parlent des périodes les plus anciennes, au moment même de l'indépendance du Mexique, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la parution du dernier livre de L'Ecclésio. Voilà, vous avez lu les programmes, vous les connaissez, je n'en dirai pas plus. Je vais simplement laisser la parole pour qu'on vous présente. Nous aurons deux vidéos qui ont été tournées au Mexique et que nous allons voir, les auteurs n'étant pas présents parmi nous. Mais Carolina, tu vas nous dire ce qui concerne la première.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Nous allons commencer par les vidéos que nous a envoyées monsieur le conseiller de la présidence, monsieur José Alfonso Suárez del Real. Et donc, je vous invite à faire connaissance des vidéos de la, avant 1810 et tous les liens qui existaient avec la France. Merci beaucoup.
Quali tonali. Mon nom c'est José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Je travaille au Palais National tout près de Madame la Présidente et Claudia Sheinbaum. Et je suis invité par l'ambassade de France au Mexico-France, excuse-moi, pour parler à propos de la liaison si étroite existante entre le Mexique et la France à propos de 200 ans d'amitié entre nos peuples. Nous, Mexicains, nous devions être très fiers d'avoir comme initiateur de notre révolution d'indépendance un humaniste engagé, l'un des intellectuels les plus brillants de son temps, le recteur de l'une des écoles les plus prestigieuses de l'histoire de la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire le Mexique, les promoteurs et forgeurs des ateliers des arts et artisanats et modernisateurs des formes de culture au bénéfice des indigènes et des métis de leur paroisse, polyglotte et promoteur de la culture, donc la maison, sa maison à San Felipe de los Herreros était connue sous le nom de la Francia Chiquita, la petite France. Il s'agit du père de la nation mexicaine, Don Miguel Hidalgo y Costilla, né il y a 272 ans, le 8 mai de 1753, à la hacienda de Corralejo Pénjamo, deuxième fils du mariage formé par Cristóbal Hidalgo y Costilla et Ana María Gallaga. La mort prémature de leur mère, en 1776, définit le destin des frères Hidalgo, qui furent envoyés au collège jésuite de San François Xavier à Valladolid, dans l'état de Michoacán, pour commencer les études formelles dans cette école, autrefois fondée par Vasco de Quiroga, dont l'histoire et le travail au Michoacán firent pour le petit Miguel une partie intégrante de son idéologie. L'expulsion des jésuites, ordonnée par l'Espagne, provoque des irritations et de l'indignation de nombreux habitants de la colonie. Valladolid ne fit pas l'exception et la fermeture du collège jésuite força les frères Hidalgo à retourner à l'hacienda de sa famille jusqu'à ce que leur oncle maternel, le bachelor Galaga, convainque leur père de leur s'inscrire au collège de San Nicolas Obispo en 1777. La discipline et intelligence de Miguel les distingue parmi les élèves de sa classe, notamment par son érudition, sa réflexion et sa critique sur les sujets des études, son goût pour les langues classiques et modernes, ainsi que pour les l'otomie, les purépecha, les nahuatl, des langues des indigènes de la région. Miguel Hidalgo obtient son diplôme de bachelor des arts à l'Université royale et pontificale du Mexique en 1767. Et 3 ans plus tard, il obtient le titre de bachelor de théologie dans les mêmes institutions académiques. C'est à 1718 qu'il a été ordonné prêtre. En 1787, il fut nommé trésorier du collège et 3 ans plus tard, il assume à l'unanimité le rectorat de Saint-Nicolas, poste qu'il a occupé jusqu'en 1792, lorsque ses ennemis réussiront à le destituer et l'expulser à la paroisse de Colima qu'il a occupé pendant 8 mois, et puis reçut l'ordre de se transférer pour s'occuper du curé de Saint-Felipe de los Herreros à Guanajuato. Face à la pauvreté de ses paroissiens, Hidalgo décida d'appliquer les enseignements et méthodes de Tatabasco, enseignant aux indigènes et métis de nouvelles méthodes de culture, retrouvant l'esprit communautaire pour créer des industries artisanales domestiques, enseignant aussi la lecture et l'écriture et les comptages. Les maisons des prêtres Hidalgo dans sa ville natale de Guanajuato furent le théâtre de la promotion et de la diffusion des idées des Lumières, qui les prêtres chérissaient et de ses lectures en tant qu'enseignant et recteur du Collège de San Nicolas à Morelia. Grâce au procès initié par l'Inquisition, depuis 1800, nous connaissons les lectures du père de l'indépendance du Mexique. Sur la base des plantes d'une certaine Huesca, par exemple, l'Inquisition convoque les frères Manuel Estrada à témoigner qui ratifia la dénonciation de Huesca et ajoutant qu'Hidalgo s'est basé sur l'histoire du fleuri. Les déplaignants citeront l'auteur comme les sources intellectuelles du prêtre Hidalgo. Concernant Ramon Pérez, commissaire de l'Inquisition, et qui avait dénoncé que Hidalgo lisait des livres interdits, dans les précisions de son rapport, il souligne que Fleury, entre guillemets, est un livre médiocre qui suscite le lecteur, l'inflation et l'orgueil, les méprises pour les saints, pour les papes et leur autorité, pour les reliques et les dévotions. Pour cette raison, le pape Benoît XIV l'a interdit. Josefa López Portillo déclare avoir entendu Claudia Bustamante dire que, guillemets, dans la maison de Ludit Hidalgo, il y avait une mute et que c'était une petite France, mais qu'elle avait compris que cette petite France, à cause de l'égalité avec laquelle s'est traité tout le monde à son intérieur. Effectivement, dans la Francia Chiquita, l'égalité entre les paroissiens l'a permis à Hidalgo de fonder une orchestre pour animer les fêtes et les rassemblements. Il a enseigné et produit des théâtres, principalement de Racine et Molière, dont il utilisa les souffres pour sensibiliser socialement les spectateurs. Ce qui lui a permis de donner des conférences et de débattre de nouvelles idées des Lumières françaises et de la situation politique des colonies espagnoles. Hidalgo suivit avec grand intérêt les événements de 1808, vit l'émergence du nationalisme créole réprimé par les péninsulaires, rencontra plusieurs conspirateurs de Valladolid et étant une amitié étroite avec le capitaine Ignacio Allende. Cette même année, il a reçu en Dolores un tel monsieur Gaëtan Suchet d'Avimar, mieux connu sous le nom d'Octaviano d'Avimar, un général français qui s'est trouvé au Texas, qui à l'époque appartenait au Mexique, supposément, et envoyé sur l'ordre de Napoléon Ier, il a été fait prisonnier et amené du Texas jusqu'à San Juan de Ulúa, au port de Veracruz, en traversant tous nos pays et en chemin. En passant par Dolores, il rencontre les prêtres Hidalgo et Ignacio Allende, une rencontre que l'Inquisition associée aux conspirations napoléoniennes et lesquelles le père Hidalgo a répondu. Effectivement, je raconterai à un messier d'un tel nom, un messier Avimar, avec qui on avait parlé de les Lumières, monsieur l'Inquisiteur, pas d'insurrection. En 1810, il rejoignent les tertulias des corregidores de Querétaro, où il a pris les plans de l'indépendance du docteur Iturriaga et se prépare à soutenir la création des juntas dans les principales villes du territoire à la fin du 1er décembre de cette année, lorsque la grande foire de San Juan de los Lagos s'était célébré. Hidalgo n'était pas un révolutionnaire improvisé. Ses idées libertines et de justice sociale ont mûri tout au long de sa vie pour répondre aux défis de ses paroissiens, c'est-à-dire du peuple mexicain, et pour reconnaître que ceux, les Mexicains, nous sommes nés dans cette terre devenaient être égaux devant eux-mêmes, égaux devant leurs propres lois et égaux devant leur propre gouvernement. Cette pensée mature lui valut la reconnaissance des conspirateurs de Querétaro pour les nommer chef de l'insurrection en cours de préparation. Lorsque la conspiration fut dénoncée, il était urgent de leur en faire en connaissance. La trahison fait avancer les plans tous les matins du dimanche 6 septembre de 1810. Hidalgo sonna la cloche et convoqua ses fidèles et ses étrangères au cri de, entre guillemets, « Le temps est venu pour notre émancipation. L'heure de notre liberté est venue. » Et si vous connaissez sa grande valeur, vous m'aiderez à la détendre des griffes du tyran. Les triomphes et les défaits renforçaient les idées d'Hidalgo et son esprit libertin s'exprima à Guadalajara, une ville où il décréta l'abolition de l'esclavage, la restitution des terres à leurs propriétaires originaux, c'est-à-dire aux indigènes et métis qui habitaient cette terre depuis l'Antiquité. Il exhorta à convoquer un congrès avec la participation de toutes les provinces et définit que le gouvernement devait avoir des ministères celui de la grâce et la justice, et celui de l'État et des affaires étrangères, et ordonna la publication d'un journal, El Despertador Americano, le Lever Américain, dont le premier numéro parut le 20 décembre 1810. Le 30 juillet 1811, à 7h du matin, Don Miguel Hidalgo y Costilla fut abattu et décapité dans la cour intérieure de l'hôpital royal de Chihuahua. Ses restes furent exposés sur la place attenante, tandis que sa tête ainsi que celle des Allende, Aldama et Jiménez est amérante la route ignominieuse vers Guanajuato. Et les têtes sont placées à chaque coin de la Lóndiga de Granaditas de la ville de Guanajuato afin d'accomplir la sentence de leur montrer au titre d'exemple pour leur rebelle et la rébellion. Ces derniers actes de barbarie espagnole contre l'un des esprits les plus brillants de notre histoire a prouvé la raison de l'intellectuel, de l'unioniste, de l'abolitionniste de l'esclavage, du promoteur de l'égalité parmi ceux nés dans cette terre, du père incontesté de la patrie mexicaine, celui qui est mort pour nous libérer et nous rendre indépendants du tyran, toujours attaché au principe de la France révolutionnaire. Merci beaucoup, Tlazocamatli, pour m'écouter de Mexico à Paris. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup pour ce premier épisode. Alors, nous avons un deuxième épisode maintenant qui est tout à fait différent, mais qui va nous parler d'un événement important. Tout le monde qui fréquente le Mexique connaît les Barcelonnettes, mais il y a eu d'autres Français qui sont allés au Mexique qui ne sont pas Barcelonnettes. Et c'est cela dont on va vous entretenir maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, comme vous l'avez rappelé, le Mexique et la France célèbrent cette année 200 ans de relations diplomatiques, mais aussi et surtout d'amitié entre les deux pays. Et en Haute-Saône, parce que bon, je pense que vous vous dites, c'est un petit peu bizarre après cette magnifique intervention, qu'un petit coin de la Haute-Saône arrive jusqu'à Paris pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont comme relation avec nos amis mexicains ? Eh bien, Haute-Saône, ce n'est pas moins de 40 ans d'amitié que le département de la Haute-Saône, Champlit, Ritaltepec et San Rafael, fêtent également de part et d'autre de l'Atlantique, particulièrement du 13 au 20 septembre prochain, avec l'accueil d'une délégation mexicaine en Haute-Saône. Ces liens sont nés d'une histoire singulière et universelle à la fois. Pour comprendre le jumelage qui unit la Haute-Saône et la commune de Champlit à San Rafael et Ritaltepec depuis 1986, il faut remonter aux origines d'une migration, celle d'habitants de Haute-Saône, vers les terres mexicaines. Et oui, vers 1833, une petite centaine de vignerons et d'artisans, pour la plupart issus de la région viticole de Champlit, ont tenté de rejoindre les côtes du golfe du Mexique dans l'état de Veracruz. Ils seront ensuite rejoints par plusieurs centaines de Haussonnois et d'autres Français au cours des décennies suivantes. Mes collègues vous en parleront bien mieux que moi. Comme dans de nombreuses histoires de migration, ces hommes et ces femmes se sont lancés à la poursuite d'un rêve pour échapper à une période de grande pauvreté, en partie liée à de fortes gelées à répétition qui ne leur permettaient plus de vivre du vignoble. On peut imaginer leurs craintes et leur fatigue après 2 mois de voyage, mais aussi leurs rêves et leur espoir au cours de ce périple. Cette histoire de migration est transmise de génération en génération, de part et d'autre de l'Atlantique. Les communautés installées au Mexique ont eu à cœur de transmettre à leurs enfants et petits-enfants les usages haussonnois et l'expérience de la migration. La richesse et le dynamisme des échanges culturels et surtout des liens d'amitié qui sont aujourd'hui partagés sont en grande partie liés à la personnalité, au travail de recherche du prêtre et historien Jean-Christophe Demare, pardon. Il est à l'initiative du jumelage et de la fondation du musée de la rencontre des deux cultures à Saint-Raphaël en 2007. Connu de tous sous le nom de El Padre Jean Arizaltepec, El Padre Juan Arizaltepec et Saint-Raphaël, il est à l'initiative du jumelage et de la fondation du musée de la rencontre des cultures à Saint-Raphaël. Ce musée se présente comme une réplique du musée départemental des arts et traditions populaires qu'il a créé avec ses parents à Champlite. Suite à son décès, cette amitié franco-mexicaine continue de se traduire par de nombreuses actions culturelles dans lesquelles est recherché un esprit de réciprocité. Aujourd'hui, pour permettre aux jeunes Mexicains de faire vivre à leur tour cette histoire, le département finance des cours de français à Saint-Raphaël et Rizaltepec depuis plus de 35 ans. En Haute-Saône, les habitants sont également curieux de rencontrer et d'échanger avec leurs cousins mexicains. À Champlite, les musées départementaux de Mar créent une diversité de produits miroirs, de projets miroirs avec leurs partenaires. Depuis 2022, tout Champlite se met à l'heure mexicaine à l'occasion de la Semaine du Mexique en France, organisée avec la Chambre économique du Mexique en France. Et en 2024, grâce au soutien de Son Excellence ambassadrice du Mexique de France, une donation de costumes traditionnels de la danseuse et chorégraphe mexicaine Maria Angelica Juarez, qui est par là, voilà, est venue enrichir les collections de nos musées. Et nous en remercions encore parce que c'est ce que j'expliquais à Madame l'ambassadrice tout à l'heure. Cette exposition, c'est vraiment ces costumes traditionnels voyagent à travers la Haute-Saône et créent des liens très importants avec nos personnes de Haute-Saône. Donc cet exemple exceptionnel, cet ensemble exceptionnel qui méritait bien une exposition et un Saón Jarocho a permis de faire rayonner le dialogue entre les cultures à travers la Haute-Saône et au-delà. Les 40 ans du jumelage entre le département, Champlite, Rizaltepec, Enautla, San Rafael sont donc plus qu'un anniversaire. C'est un moment de partage inoubliable et aussi un passage de témoin aux nouvelles générations, des liens culturels très forts qui nous rappellent que la culture rapproche les peuples, nos peuples, par-delà l'océan et renverse les murs qui continuent à s'ériger dans ce monde. Et donc maintenant, je vous remercie. Je vais laisser la parole donc à Aurélie Dumas, notre ethnologue, et puis à Delphine Lano, directrice du musée. Je vais t'amuser avec ça.
Donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette migration et surtout comment on essaye de continuer à l'écrire. Donc le 19 septembre 1833, 98 habitants de Champlite et ses environs, des habitants de Haute-Saône, mais aussi de Côte-d'Or et de Haute-Marne, quittent le port du Havre à bord du trois-mâts, l'aigle mexicain, pour rejoindre le Mexique après donc de 10 000 km. De nombreuses difficultés expliquent ce geste qui a amené des cultivateurs et des artisans à se jeter dans un long voyage vers l'inconnu, vous imaginez à l'époque, où les déplacements se faisaient encore largement à pied, en chariot, en bateau. L'accroissement des inégalités en France rurale, la pénurie, la maladie qui touche l'ensemble de l'Europe en ce début du XIXe siècle, une épidémie de choléra en 1932 qui touche particulièrement la Haute-Saône, se sont ajoutés ici à de fortes gelées à répétition qui ont ruiné la culture de la vigne. Donc les habitants étaient dans la misère et notre région connaît d'autres migrations beaucoup plus importantes en nombre qu'on est en train de découvrir actuellement et sur lesquelles on travaille aussi vers les États-Unis, l'Argentine, l'Algérie pour le contexte qu'on connaît et aussi la Russie. Entre 1833 et 1860, ce sont près de 600 personnes qui ont choisi de tout quitter pour rejoindre, pour poursuivre leur rêve, peut-être, d'une vie meilleure à l'autre bout du monde, donc sur les rives du golfe du Mexique. Et les descendants de ces émigrants n'ont pas oublié cette histoire. Elle continue vraiment à se transmettre dans les familles à San Rafael et Ricaltepec, donc sur les rives du fleuve Rio Bobo. C'est vraiment un héritage qui fait rêver aussi les jeunes générations. Les personnes qui connaissent les lieux, Champlit, San Rafael, Ricaltepec, peuvent en témoigner. Et Sylvie Coutru l'a dit, Jean-Christophe Demare a mené des enquêtes ethnologiques et historiques depuis les années 1969 qui ont donné lieu à notre jumelage. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, nous menons des enquêtes ethnologiques pour pouvoir construire cette histoire de façon collective, continuer à l'écrire de façon collective en associant les habitants d'ici et de là-bas à la construction d'enquêtes expositions. Donc en 2016, on a fait un projet qui s'appelait une enquête qui s'appelait Passerelle et les murs renversés deviennent des ponts. Et on a invité les différents membres de la communauté du jumelage à raconter leur histoire à travers des objets qui viennent interroger cette identité singulière qui fait que on est mexicain, mais on se sent français et on n'est pas complètement français et on n'est pas complètement mexicain et on est les deux à la fois. Et donc c'est comment on peut hériter de cette histoire de migration, de jumelage et de colonie aussi pour l'avenir et comment on interroge les générations, les jeunes générations et comment on les involucrar, ça disait, non? Et donc, cette histoire, on continue à l'écrire aussi à travers des coopérations scientifiques avec l'Université de Jalapa, la UV, qui a participé à l'enquête passerelle, à la traduction du livre et aussi à la traduction du nouveau livre qu'on vient d'éditer pour les 40 ans du jumelage qui est entre les mains de l'ambassadrice. Costume mexicain, continuons à tisser des liens. C'est un livre qu'on a écrit suite à la donation des costumes par Marianne Redicaro-Arez. Et on l'écrit aussi à travers des coopérations avec d'autres musées qui héritent aussi d'histoires de migration vers le Mexique et l'Amérique latine. Donc on a hérité vous avez vu des photos de Jacqueline Cold, qui est une photographe qui s'est intéressée à cette histoire dès 1982. Et elle a rencontré, travaillé dans le port de Veracruz, non, sur le pétrole à Tabasco. Et on lui a dit, mais à San Rafael, il y a des gens qui sont comme toi, les yeux bleus, les blondes, et qui parlent français. Et elle est allée rencontrer cette communauté. Et ensuite, elle a voulu suivre aussi la communauté de Barcelonnette dans tout le Mexique et les gens de l'Aveyron qui sont partis en Argentine. Et donc, nous avons écrit un livre avec les trois musées sur cette œuvre photographique. Et ce livre, Nos cousins d'Amérique, a été traduit par Madame l'ambassadrice en personne, que nous remercions beaucoup pour ce geste et cette collaboration. Et donc, en 2019, nous avons voulu recréer un nouvel espace d'exposition permanent qui s'appelle Rêve mexicain. Donc, nous sommes inspirés de l'Ecclésio, mais nous avons pluralisé, c'est des rêves mexicains. Et donc, je pense que je n'aurai pas beaucoup le temps de développer, mais l'idée, c'est toujours d'interroger la migration. Est-ce que c'est le rêve d'une vie meilleure qui nous pousse, surtout à cette époque, à partir? Il y avait le rêve de fonder une colonie agricole qui était le rêve de Stéphane Guénaud. C'était un aventurier qui avait beaucoup étudié déjà le Mexique, la pédagogie, l'agriculture. Il avait des grands plans et il a embarqué les gens dans cette histoire en leur faisant rêver d'un ailleurs sauvage et salvateur où la nature est abondante dans cette forêt tropicale et il n'y a pas de maladie, rien du tout. Et sauf que arrivé sur place, une fois déjà pendant le voyage, etc., il y avait de nombreuses épreuves qui se heurtaient à ce rêve. Et donc, on avait fait un film qui s'appelle « Cultiver l'esprit des ancêtres », où on demandait aux agriculteurs d'aujourd'hui qui sont là-bas, parce qu'ils sont restés agriculteurs, comment ils s'inspirent de leurs ancêtres pour continuer à aller de l'avant et répondre aux nouveaux défis comme le changement climatique ou les nouvelles migrations de leurs ouvriers agricoles vers les États-Unis, etc. Et on voyait bien que la persévérance, la résistance de leurs ancêtres, le travail, sont vraiment des valeurs qui sont restées et qui fixent ce qu'ils appellent l'esprit de cette colonie. Bon, je vais laisser la parole à ma collègue aussi pour qu'elle raconte un petit peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y avait aussi ce rêve de la rencontre des cultures qui est fondateur de notre jumelage, de se dire qu'est-ce que c'est que ce retour des premiers Mexicains, Mexicains français qui sont revenus à Champite pour retrouver la terre de leurs ancêtres. Il y avait un vrai rêve de revoir la terre des ancêtres. Et qu'est-ce que font ces relations qu'on crée aujourd'hui, c'est entre les cultures, etc. Et c'était vraiment un rêve de fraternité et de justice qui a été défendu par Jean-Christophe Demare et qu'on continue à cultiver aujourd'hui à travers tous nos projets.
Je vais être très rapide pour ne pas bousculer le planning, le calendrier. Donc aujourd'hui, cette histoire, elle se concrétise à travers des projets, des actions qui se déroulent tout au long de l'année, portées par le département, portées aussi à San Rafael, à Ricaltepec-Nautla, aussi par les musées départementaux de Mar, Aurélie et puis Sylvie en ont très bien parlé. Donc très concrètement, comment ça se concrétise? Eh bien tout d'abord par l'envoi de chargés de mission à la Maison de la Culture, donc à San Rafael, donc avec une chargée de mission permanente qui travaille, qui enseigne la langue, mais pas seulement, qui sensibilise aussi à la culture française depuis de nombreuses années, et puis l'envoi d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un jeune diplômé qui vient renforcer aussi le travail de cette chargée de mission tous les ans. Voilà. Et tout cela dans un esprit aussi de réciprocité, puisque nous avons accueilli aussi en Haute-Saône une étudiante mexicaine il y a 2 ans, et nous allons accueillir aussi un historien et un chroniste d'un lycée public de San Rafael, donc à partir du mois de septembre et pour 2 mois, c'est ça ? Voilà, qui va travailler sur la fête des morts, sur également éventuellement aussi des actions hors les murs en lien avec les élèves de collège haussonnois, et puis aussi sur les archives de Jean-Christophe Demare. Donc tout cela dans un esprit de réciprocité pour continuer à tisser les liens, parce que c'est bien un jumelage vivant dont il s'agit. Il y a évidemment des actions solidaires aussi, peut-être le plus symbolique, c'est le pont qui a été inauguré en mars 2015, donc permettant de relier les deux rives de Ricaltepec et puis San Rafael. Donc le département a contribué aussi à l'édification de ce pont, et puis des actions aussi en lien avec une association Haute-Saône Mexique que soutient aussi le département et qui tous les ans se rend à San Rafael et Ricaltepec. Alors, Aurélie en a parlé, donc j'ai passé très vite, les salles permanentes, donc Rêve Mexicain, qui ont été inaugurées en 2019 et qui permettent justement de continuer à tisser ces liens. Et puis un événementiel aussi du côté de Champlit, avec des projets miroirs aussi qui s'articulent tous les ans autour de cette relation entre la France et le Mexique. La semaine du Mexique en France, qui permettra aussi cette année d'être le point d'orgue des 40 ans du jumelage, avec l'accueil d'une délégation mexicaine. Nous avons aussi le jour des morts, qui est un temps extrêmement fort aussi. Oh là, pardon, excusez-moi. Je crois que je vais trop vite. Donc le jour des morts, qui est un temps extrêmement fort aussi à Champlit, qui permet aussi de fédérer les Haussonnois autour d'une fête mexicaine très très célébrés de l'autre côté de l'Atlantique, des projets aussi éducatifs et des projets aussi miroirs, encore une fois, on l'a dit. Et puis, on a évoqué aussi la donation de Maria Angelica Juarez, qui a donné lieu à une exposition qui s'est déclinée sur plusieurs sites, parce que le principe est aussi pour nous, enfin, l'important aussi pour nous est de faire rayonner eh bien, ce jumelage. Donc, cette exposition, elle s'est développée à Champlitte, à Luxeuil et à Lure, donc à travers toute la Haute-Saône. Et j'en termine parce que je ne veux pas empiéter sur les prochaines interventions. Merci.
Et donc, si vous... Si vous voulez connaître la suite, nous vous invitons du 19 au 20 septembre pour célébrer les 40 ans du jumelage à Champlitte et en Haute-Saône.
Pouvez-vous peut-être vous demander pourquoi il a été question du jumelage, des 40 ans du jumelage? En réalité, Champlitte et la région ont été programmées en ce moment parce que le début du mouvement des migrations, c'est en 1833. Donc c'est une vieille histoire. Là aussi, ce n'est pas tout à fait deux siècles, mais presque. Donc Champlitte avait sa place chronologique, même si aujourd'hui, on célèbre davantage les 40 ans du jumelage que les tant d'années de présence de Jean de Haute-Saône dans le Veracruz. Maintenant, je vais appeler Rosario Acosta et Eric Taladoir. Nous continuons donc notre trajet dans le temps et nous sommes maintenant plus loin dans le 19e siècle et je les laisse.
En 1861 commence l'expédition du Mexique. Pendant cet épisode qui affronte nos deux pays, Napoléon III règne sur la France et Benito Juárez est le président élu du Mexique. Benito Juárez est un Indien zapothèque qui n'a appris à parler l'espagnol que quand il était déjà adolescent. Il intègre ensuite l'Institut des sciences et des arts, aussi des libérales. Il apprend à lire le latin, il apprend le droit, mais il apprend aussi, comme il le dit lui-même dans ses mémoires, il apprend le français. Il précise qu'il lit le français sans problème, mais qu'il a du mal à le parler. Il arrive à la gouvernature de l'État de Oaxaca, son État natal, et à ce moment-là, il promeut les vaccins contre la variole. Il se fait vacciner lui-même et sa famille, pour donner l'exemple. Et il est évident que pour faire venir les vaccins d'Europe, il s'est documenté dans des publications en français, puisqu'il ne lisait pas l'anglais. Ensuite, une fois ministre de la Justice, il signe la loi Juárez qui établit l'égalité de tous les Mexicains devant la loi. Il s'inspire pour rédiger cette loi d'un principe fondamental français qui est le principe d'égalité. Une fois arrivé à la présidence de la République, il fait approuver les lois de réforme. Ces lois visent à séparer les affaires de l'Église des affaires de l'État. Et pour ça, il s'est aussi inspiré dans un principe fondamental de la France qui est la laïcité. Bien entendu, ces lois ont provoqué un tollé chez les conservateurs et dans l'Église. Il s'ensuit une guerre civile qui dure 3 ans et qui est remportée par les libéraux. Benito Juárez reçoit la nouvelle de la victoire quand il se trouve à l'Opéra de Veracruz. Et à ce moment-là, il arrête le spectacle, il proclame la victoire et toute l'assistance s'élève pour chanter la Marseillaise, symbole de liberté pour les Mexicains.
Alors, officiellement, Juárez est victorieux, mais la guerre civile a ruiné le pays, les fonds manquent, le Mexique a dû emprunter, et notamment en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis aussi, et en France. Et en janvier, en désespoir de cause, Juárez suspend le paiement de la dette. Cela provoque une montée immédiate au front des Espagnols qui viennent de Cuba, ils arrivent les premiers, 800 Anglais très prudents qui restent sur leur bateau, 2500 Français qui débarquent et qui donc avancent vers le centre du Mexique. Je ne vais pas détailler l'intervention française, elle est connue. L'Espagne et les Anglais se retirent, les Français se battent à Puebla, perdent à Puebla, c'est une fête nationale au Mexique, et finissent par prendre Mexico, Juárez s'enfuit. Cela étant, l'opinion française est loin d'être unanime. Achille Jubinard, en 1862, à la Chambre des députés, c'est un bonapartiste d'origine, déclare plutôt, « Si nous allons au Mexique pour y renverser un gouvernement libre et imposer à une nation qui ne dépend que d'elle-même une forme de gouvernement quelconque, je me permettrai de demander au gouvernement que devient ce grand principe de la non-intervention qu'il a proclamé et défendu ailleurs. Vous reprochez au Mexique ses révolutions, soi-disant railleries, dans nos 70 dernières années, n'avons-nous vu se succéder une douzaine de régimes. À quel titre irions-nous attaquer un pauvre petit peuple jeté au-delà des mers, dans lequel on entend comme un écho lointain des principes qui ont fondé notre grande nationalité ? Donnez-lui le temps de se constituer et de vous payer. » Jules Fabre, qui lui est dans l'opposition, est un peu plus bref, mais plus lapidaire. « On ne fait pas la guerre à un État pour l'obliger à payer ses dettes. Juárez ne refuse pas de payer, il demande du temps. » Donc, les Français sont loin d'être unanimes, et bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse sur la lettre de Victor Hugo après la défaite française à Puebla. Faut dire que la défaite française à Puebla, elle était vraiment grotesque. Faire monter des oies à la soupe d'artillerie. Il fallait y penser. Victor Hugo écrit donc « Ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, mais l'Empire. Combattez, luttez, soyez terribles. Et si vous pouvez, si vous croyez que mon nom, bon, a... Pardon. J'ai eu une erreur de... à quelque chose, n'hésitez pas à l'utiliser. » Donc, la lettre de Victor Hugo est reproduite d'extenso dans les archives. Les relations diplomatiques, après la défaite française finale, les Français partent un peu la queue basse, mais étant donné que c'est Napoléon qui a perdu, c'est pas la France. Donc, les relations diplomatiques entre la France et le Mexique reprennent presque naturellement à la chute de l'Empire. Napoléon III abdique, les Mexicains reprennent les relations. Pour mémoire, les relations diplomatiques avec l'Autriche ne seront rétablies qu'en 1904. L'Autriche, qui n'avait pas grand-chose à voir au Mexique, mais deux régiments quand même. Et en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, les Mexicains affluent en France. Alors, bien entendu, il y a les Barcelonnettes, ils sont français officiellement, donc mobilisables, ils s'engagent en masse et perdent beaucoup d'hommes, mais on oublie aussi que des Mexicains, par solidarité, sont venus. Ils sont 7 sur le monument aux morts de Barcelonnette, avec des noms tout à fait mexicains. Il y a pas de... ce ne sont pas des Barcelonnettes, ce ne sont pas des Français du Mexique, ce sont des Mexicains. Donc, la Première Guerre mondiale a, disons, resserré les liens. Mais ces liens se sont établis sur d'autres bases aussi, puisque la guerre franco-mexicaine a donné un épisode à la Hacienda del Camarón, au Veracruz, où une unité de la Légion étrangère s'est battue jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'était 70 hommes à peu près contre 2000 Mexicains, officiellement. Les Mexicains ont vaincu, bien entendu, mais la mission de cette unité a été une réussite, au sens où le convoi qu'ils devaient protéger est passé. Les Mexicains ont autorisé l'association Cameroun à construire un monument aux morts sur le site de Villa Tejada actuel, l'île de la Hacienda del Camarón, où tous les ans est célébrée la bataille de Cameroun. C'est le 30 avril. Ça a été célébré il y a quelques jours en France. Et pour terminer, je voudrais signaler que après 200 ans de célébration, il y a quelques années, la Légion étrangère, sans armes cette fois, a été autorisée à participer au 16 septembre, la fête nationale du Mexique, où ils ont obtenu un triomphe complet. Donc, pardon.
Merci donc Rosario et Eric, et nous continuons notre démarche dans le temps. Alors là, on va faire un grand saut, mais je vais inviter Madame l'ambassadrice à nous rejoindre parce que nous avons deux présentations qui devraient vous plaire particulièrement et qui concernent les deux résidences, celle du Mexique en France, qui a été la première achetée, et celle de la France au Mexique. Notre ambassadrice de France au Mexique n'a pas pu se joindre à nous, mais elle nous a envoyé un très beau vidéo que vous verrez, une très belle vidéo que vous verrez dans un instant. Mais Madame l'ambassadrice, qui nous fait l'honneur donc de présenter sa propre résidence, est avec vous maintenant.
Bonjour à tous et à toutes. Et bon, on est en train de célébrer ce 200 ans d'amitié. Et on est en train de dire tout le temps, on va célébrer encore 200 autres. Alors, il faut se préparer. Et je vais présenter l'achat de la maison et de la résidence du Mexique parce qu'elle est aussi en train de fêter, en fait, les 100 ans de la résidence. La suivante, s'il vous plaît. Et cette résidence a été achetée par ordre d'Alberto José Paña Arteaga, que j'aime bien parce que lui, il était aussi un ingénieur comme moi et il travaillait dans l'eau. Alors, il était parfait. Mais il avait aussi beaucoup des autres choses qu'il a fait. Il était ministre diplomate, il était ministre des Finances et il a fait beaucoup de choses d'autres dans la vie. Et la suivante, on a beaucoup plus de... Oui. Ça, c'est très vite pour vous montrer qu'il a été ministre plénipotentiaire. À cette époque-là, on n'avait pas des ambassadeurs. Il a été deux fois, En 1917, après il est rentré, il était ministre des Finances, il était avec deux présidents, il s'est fâché avec un des présidents et il a demandé de revenir en France parce qu'il a fait ses études ici en France. Il a demandé à son frère, la suivante, d'acheter, de chercher une maison où il pourrait mettre la résidence. Ils ont trouvé un endroit, mais ils n'ont pas pu l'acheter. Il se trouve à 45 rue Boissier. Et après, en 1926, ils ont acheté la maison qu'on a en ce moment, qui est à Avenue de Wilson, et qui appartenait à la duchesse de Luynes et de Chevreuse. La suivante. Bon, on a ici la résidence, mais la résidence... Dans la partie derrière, il y avait une écurie qui était... C'est là qu'on a construit l'ambassade. Et du côté de Wilson, on a la résidence, la suivante. Et là, il commence à se faire un mariage très, très intéressant, un mariage d'amitié entre Alberto Pani et Ángel Sárraga. Ceux deux-là, ils sont... travailler une en mettant tout ce qui était du côté diplomatique, la voyance, comment on se voyait dans tous les deux pays. Et Sárraga, lui, il était l'artiste, l'inspiration. Et il commence à convoiter la suivante d'avoir toute une série de tableaux. Très vite, Ángel Sárraga, lui, il est un peintre qui est né à Durango. Il habitait, c'est la première artiste qui est considérée comme un artiste international pour le Mexique. À cette époque-là, pour être artiste, il fallait à tout prix être en France. Lui, il a réussi à être ici. Et il a passé beaucoup de temps, après il a rentré, il a passé le déguerre ici, mais quand on a eu le fascisme qui montait, il est rentré au Mexique. La suivante. Et M. Pani l'a chargé de préparer 18 tableaux. Ces panneaux sont très importants. Ils démontrent l'histoire d'amitié entre la France et le Mexique. Et les suivants, là, je vais passer un peu vite parce qu'en ce moment, on a 10 tableaux ici à la résidence et 8 tableaux qui sont encore au Musée national de l'art. Il y aura une exhibition de Sárraga à la fin de l'année et après ça, en principe, les tableaux vont revenir à la résidence pourvu qu'on trouve tout, pas mal d'argent qu'il nous faut. Et ces tableaux, ils se parlent parce que ça n'a pas aucun sens avoir une partie des tableaux parce que tous les tableaux, ils se parlent un par un. Ils vont en train de raconter une histoire. Et c'est une chose très intéressante, vous allez noter, il y a beaucoup de femmes dans ce tableau. Et là, c'était une des premières tableaux, les suivantes, s'il vous plaît. Là, oui, ça, ce tableau, c'est très intéressant, maintenant qu'on est en train de discuter beaucoup de choses, parce que d'un côté, il y a deux femmes, une petite fille qui donne un catéchisme du côté de la France, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils tiennent? Un codex. Comme vous savez, on est en train d'essayer de récupérer nos codex. Alors, ça nous a paru très important. Mais vous voyez aussi, ici, il peint ce qui était à l'époque. À cette époque, il y avait encore, à la ville de Mexico, on s'est transporté par des canoës. Et alors, il a mis ça aussi dans des tableaux. Ils vont en train de montrer la façon de vivre tant ici au Mexique, tant comme en France, les agriculteurs, la suivante. Ici, c'est une de nos grandes artistes, quand elle n'était pas très connue, Dolores del Río. Lui, il a peint Dolores del Río parce que c'était quelqu'un d'un esprit très libre, la suivante. Ici, c'est une femme française de Provence. Et vous voyez, là, il a au milieu, il y a les couleurs du drapeau de France, la suivante. Ici, c'est très intéressant parce qu'ils rendent hommage au sacrifice des aviateurs français qui ont essayé de traverser bon, de faire les liens. Et malheureusement, ils sont échoués. Il fait ça. Après, il met aussi Lindbergh, la suivante. Et bon, et passer. Si c'est quoi Octemoc, c'est un autre tableau. Ce sont beaucoup de tableaux. Mais ce tableau, c'est très intéressant parce que c'est une des premières de la série. Et on montre la France d'un côté. Et avec tout cette rose qui est une symbole. De l'autre côté, on a le Mexique, mais il est de côté. Avant, on disait que le Mexique, c'était el cuerno de l'abundancia. Pour ceux qui sont beaucoup plus âgés, peut-être qu'ils se souviennent de ça. Et c'est pour ça qu'il a toutes ces couleurs. Et les deux femmes, ils se parlent un à un. Et tous ces tableaux, ils vont un à un. C'est pour ça que c'est très important de les avoir ensemble. La suivante. Une autre, un drapeau, les deux mères, je me suis perdue là, les deux mères, et ça c'est le dernier tableau. Le dernier tableau, c'est quand le Mexique commence à voir les États-Unis. C'est très intéressant, alors, et il y a aussi des autres tableaux qui sont les vertus cardinales et les vertus théologiques. La suivante. Et ça, c'est le tableau le plus grand. Il s'appelle Amaos los unos a los otros, parce qu'il a fait ce tableau pendant les années de guerre. Et il disait que si c'était les femmes qui étaient en train de gérer la diplomatie, on ne serait pas en guerre. C'est comme ça qu'on voit les tableaux en ce moment, mais comme vous voyez là, d'autres tableaux qui sont déjà par là. On a prêté ces tableaux pour les musées de l'architecture. 260 000 personnes sont allées les voir. Et ici, ces tableaux ne sont pas nous, mais puisqu'on est dans les moments du football, on a voulu lui montrer. Lui, c'est un des premiers, sûrement le premier peintre qui a peint des femmes footballeuses, parce que sa femme était une footballeuse de l'équipe de France. Alors, ça, c'est une tableau très intéressante. La suivante. Et très vite, je vous ai dit que dans les jardins, on a fait construire la résidence. Elle est des Art Déco et elle est classée ici en France. Et alors, il faut, en principe, il faut l'ouvrir le jour du patrimoine, mais il tombe toujours quand on a la fête nationale. Mais c'est ce qu'on a décidé de faire, et c'est d'ouvrir la résidence. Maintenant, on reçoit des visites. On a commencé à faire des visites que pour les Mexicains, parce qu'il y avait beaucoup de Mexicains qui ne connaissaient pas, mais on va l'ouvrir après pour ceux de Saint, pour des Français, par l'intermédiaire des associations, parce que la résidence ni l'ambassade ne sont pas préparés pour recevoir des gens, alors il faut avoir un peu de contrôle. Mais dès qu'on annonce que la visite va être un tel jour, un mois de demi-heure, tout est plein. Alors, on espère vous voir et nous rendre visite pour tout ce mariage d'architecture et surtout d'artistes, les mélanges de l'architecture française avec des choses mexicaines, art déco, là, et ça c'est... c'est un mélange d'art déco avec des dessins de gens de Oaxaca et les mariages aussi de cette peinture qui sont vraiment très belles. Si vous avez l'opportunité de les voir, allez-y quand on fait la fête nationale, mais aussi lors qu'on va ouvrir la résidence. Merci beaucoup.
De Dominique que je ne présente plus, voilà.
Merci beaucoup. Je voulais sauter ma communication parce que nous sommes un petit peu en retard. Alors je vais essayer de faire ce que vous connaissez très bien, c'est ma thèse en 90 secondes. Donc je vais faire très très vite sur ma présentation. Merci de bien vouloir commencer. Alors on fait un saut évidemment après la guerre. On l'a déjà fait d'ailleurs, puisque la chasse est dans les années 20. Et on peut dire d'une certaine façon que la coopération scientifique de recherche entre la France et le Mexique commence vraiment dans les années 30. En réalité, c'est faux. C'est complètement faux, comme vous allez le voir, puisque au 19e siècle déjà. Alors, vous pouvez, il n'est pas branché là, je pense. Voilà, dès le 19e siècle, on a un certain nombre de pionniers qui se sont déplacés vers le Mexique et qui ont commencé une œuvre scientifique tout à fait considérable. Probablement le premier d'entre eux, si j'arrive à faire marcher cette femme... Voilà, alors, vous en avez deux d'un coup, c'est bien. Le premier, c'est Joseph Alexis Marius Aubin, qui va au Mexique théoriquement pour faire de l'astronomie, mais on lui vole tous ses instruments. Et donc, il se découvre l'histoire ancienne du Mexique et il devient complètement historien. Il va travailler pendant 10 ans avec les historiens mexicains locaux et il va reconstituer une partie des collections de codex qui avaient été dispersées un petit peu partout chez des particuliers à ce moment-là. Et il va surtout être un des premiers à réfléchir à la façon dont les Mexicains préhispaniques écrivaient, quelle était la façon donc d'écrire dans le monde aztèque. Et il va publier ce traité qui est du milieu du XIXe siècle, mais qu'on peut tout à fait encore constituer, qu'on peut continuer à regarder parce qu'il est extrêmement savant et qu'il a encore des clés d'interprétation. Peu de temps après, quelques temps malgré tout, Désiré Charnay, qui est bien connu, je ne sais pas si un des meilleurs connaisseurs de Désiré Charnay parmi nous. Il s'était inscrit pour venir, mais je ne le vois pas. Et il va aller, lui, plusieurs fois au Mexique et il va visiter énormément de zones archéologiques et il va être un des premiers à fabriquer des photos. Il va photographier un certain nombre de sites archéologiques. J'avance donc et... Ah. Voilà. Et à la fin... dans la dernière partie donc, du XIXe siècle, eh bien, il y a encore quelque chose de tout à fait là, pour le coup, complètement officiel, qui est la Commission scientifique française du Mexique. Dans l'aura de l'intervention française, on fait partir vers le Mexique un certain nombre de chercheurs français qui vont intervenir sur différents domaines. Il y a des archéologues, pas beaucoup, il y a des géographes déjà à l'époque, il y a des géologues et il y a toute une série de Français qui collaborent avec donc, les scientifiques mexicains de l'époque et qui vont publier à leur retour 3 tomes complets qui nous donnent une idée de la connaissance qu'on pouvait avoir sur le Mexique à cette époque-là, tout à fait intéressante. Mais je vous disais, 1930, c'était la date que j'avais choisie parce que, alors, je reviens en arrière, parce que en 1930, il y a un épisode bien important, c'est la création de l'École française de Mexico par Paul Rivet, directeur du Musée de l'Homme. Et Paul Rivet se dit, pour qu'on ait des Français qui soient tout à fait professionnels sur les affaires mexicaines, il faut créer un système, et il va créer donc un système de bourses. Et il va y avoir toute une série de boursiers français qui, à partir de 1930, vont donc se succéder et vont... Pardon, je suis parti en arrière, voilà. J'arrive. Le premier, c'est Robert Ricard. C'est un historien qui a fait de grandes études déjà au moment où il part, en 1930, et il va s'intéresser, lui, à ce qu'on connaît aujourd'hui, grâce à lui, comme la conquête spirituelle du Mexique. Et il publie sa thèse en 1933. C'est un ouvrage essentiel qu'aujourd'hui, on peut absolument complètement consulter et qui est encore tout à fait d'actualité. Après lui, il y a un géographe qui fait que passer parce qu'il ne séjourne que quelques mois, mais néanmoins, il trouve le moyen de décrire un certain nombre de sierras importantes. Et puis, ensuite, vient Jacques Soustel lui-même. En 1932-1934, il va donc toujours, dans le cadre de ces bourses créées par Paul Rivet, aller au pays du Mexique, s'intéresser aux Indiens otomis d'un côté, plutôt sous l'angle de l'ethnologie et de la linguistique, et faire une thèse secondaire sur les Lacandons. Et puis, le dernier de la série, c'est Guy Stresserpéan, c'est allé trop vite, voilà, qui lui vient en 1937-1938 et à qui Rivet avait dit « Allez vous intéresser à la Huasteca et n'oubliez pas d'étudier la danse du Volador ». La danse du Volador, c'est le sujet de sa thèse. Alors lui, il ne l'a pas publié tout de suite. Ça, c'est une édition beaucoup plus récente que sa femme, après son décès, a pu faire, parce qu'il n'avait jamais voulu la publier de son vivant. Mais c'est un livre parfaitement lisible et qui est tout à fait disponible encore. Alors, il y a un autre aspect des choses, c'est en 1944, la fondation de l'IFAL. Là encore, sous l'égide et sous le patronage de Rivet. C'est Rivet qui dit eh bien, il faudrait qu'il y en ait quand même un centre permanent au Mexique. Et il crée donc l'Institut français d'Amérique latine. Et un des premiers chercheurs qui est envoyé là-bas, ce n'est pas le directeur, c'est un boursier, lui aussi, d'abord. C'est un enseignant sur place. Et puis, c'est un bibliothécaire. Et c'est François Chevalier, encore un autre historien, dont l'œuvre magistrale sur la formation des grands domaines est encore un livre tout à fait utilisable par tous les historiens d'aujourd'hui. Et donc, c'est très, très important. Peu après, l'IFAL devient un centre culturel et abandonne finalement son orientation dans la recherche. Et néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui vont passer par l'IFAL et qui vont laisser des œuvres magistrales, qui sont des grands noms de la recherche française au Mexique. Ah, pourquoi c'est revenu au début ? Je n'en sais rien. Bon, voilà, merci. Je vais avancer si je peux. Bon. Bon, alors attendez, j'avance toujours. Voilà, l'IFAL est donc le premier chercheur. Et la suite, donc ces chercheurs dont je vous parlais, qui ont laissé des œuvres considérables. Alors, j'ai du mal parce qu'on doit... C'est le premier, c'est Serge Grudzinski, bien entendu, là encore un historien, dont l'œuvre est magistrale et qui, il n'y a pas très longtemps, a gagné le prix de l'histoire des religions de l'Académie et qui, ici, commence à explorer donc tout cet aspect-là de la conquête, lui aussi, la colonisation. Et vient après lui un autre chercheur français qui, lui aussi, a laissé une trace importante et qui est un spécialiste que Madame l'ambassadrice connaît bien puisque c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur l'eau dans le bassin de Mexico, en particulier au moment où les Espagnols arrivent. Donc, il y a une petite activité avec des très grands noms, mais qui ne dure pas très longtemps et qui est surtout isolée par rapport à ce qui se passe sous la demande, à la demande des Mexicains au début des années 60. Nous avions au Mexique, à cette époque-là, comme ministre de l'Éducation nationale, Jaime Torres Bodet, et c'est Jaime Torres Bodet qui demande à la France de créer un institut permanent de recherche au Mexique. Et vous voyez, on signe un décret en septembre 62, et le 1er janvier 60, pardon, et le 1er janvier 62, on crée donc la mission archéologique et ethnologique française au Mexique, qui va devenir après donc le centre d'études mexicaines et centra-américaines. Ce centre-là, évidemment, créé d'abord comme mission archéologique, va au départ faire surtout l'archéologie, mais c'est assez faux en réalité, puisque le premier boursier qui arrive est un botaniste, et qu'ensuite se succèdent des ethnologues et un certain nombre de collègues qui, en réalité, il faut dire qu'il est dirigé par Guy Stresserpéan lui-même. Stresserpéan était un ethnologue qui était devenu archéologue et qui avait été formé à l'école française où il fallait avoir une vue générale sur l'ensemble des choses. Donc, on a un développement très considérable des recherches dans différents domaines très vite. Je vous montre simplement la carte archéologique où la France a travaillé avec le Mexique donc depuis la création de la mission archéologique, c'est-à-dire 62. Une première région, si ça veut bien marcher, c'est la Huasteca, qui était le terrain de Guy Stresserpéan au départ. Ensuite, on a eu une deuxième région qui est les Basses Terres Mayas, cette partie-là, en particulier la partie occidentale des Basses Terres Mayas. Et ensuite, on a eu le centre-ouest mexicain. Donc tout ça, ça constitue énormément de recherches qui se sont succédées et qui continuent, évidemment, encore aujourd'hui, toujours en coopération étroite avec les Mexicains. Mais je voudrais terminer par ce point-là. L'an dernier est sorti ce livre qui célèbre les 65 ans donc, de l'existence de ce centre de recherche franco-mexicain. Et vous voyez qu'il y a eu 14 directeurs ou directrices depuis la création de ce centre. Vous avez un anthropologue, un archéologue, votre serviteur, un géographe anthropologue, une sociologue, une politologue, deux anthropologues, trois historiens et quatre géographes. Autrement dit, nous sommes vraiment dans un processus de recherche multiple, tous azimuts, avec une grande variété de disciplines. Et je termine juste par une citation que j'emprunte à Claude Stresserpéan, qui était l'épouse, et qui est toujours l'épouse, de Guy Stresserpéan, dans le livre que nous avons publié sur les 65 ans, où elle écrit que notre affaire est une histoire d'amitié et une longue histoire de coopération franco-mexicaine. Et elle termine en disant, si ça veut bien s'éclairer, que debe de seguir escribiéndose. Excusez-moi, je ne veux pas abuser de votre patience, mais maintenant, tout de suite, nous allons voir une vidéo qui nous a été envoyée par Madame Delphine Borion, ambassadrice de France au Mexique, et qui nous fait découvrir la résidence de France à Mexico.
Bienvenue à la résidence de France. Je vais vous la faire découvrir. Cette résidence avait été construite par la famille Escandon, une grande famille mexicaine qui avait notamment construit ou fait construire le chemin de fer de Veracruz à Mexico au XIXe siècle et dans un style très français avec les architectes Loizaga et Alfonso Cervantes. Et la France l'a acheté par l'ambassadeur de la garde à l'époque dans la perspective du voyage du général de Gaulle qui s'est tenu en mars 1964. Venez, je vous en prie. Donc ici, nous sommes dans ce salon qui a été redécoré aussi avec une tapisserie des Gobelins. Et d'ailleurs, nous organiserons au mois de septembre une exposition des Gobelins avec les Gobelinos, qui sont ces tapisseries inspirées des Gobelins qui ont été créées ici au Mexique. Alors, ma touche personnelle, des céramiques de Gustavo Pérez, qui est un céramiste extraordinaire mexicain, mais qui a aussi beaucoup travaillé en France et notamment à Sèvres. Bien sûr, nous avons aussi beaucoup de livres. Je prends cet exemple-là des fresques de Diego Rivera au musée de Los Morales à la CEP. Et voilà l'autre pièce importante pour nous, avec des livres extraordinaires des collections françaises, du mobilier national français, qui sont ici, avec aussi quelques objets de Sèvres également que l'on peut voir. Voilà pour cette collection qui s'appelle le Tour du Monde. On voit la date, 1861, et on voit que nous avons ici toute une immense collection de cette publication qui raconte des voyages dans le monde entier. Il y en a à l'île Maurice, et voilà, voyage dans l'état de Chihuahua, raconté par M. Rondé, qui raconte tout son voyage à pied, dans l'état de Chihuahua, avec des cartes, avec des illustrations extraordinaires. Ici, voilà, c'est M. Jules Laverrière qui raconte son ascension au mont Popocatépetl. Voilà, donc nous avons cette collection extraordinaire de voyages autour du monde de cette époque, de la fin du 19e. Quelques souvenirs aussi, bien sûr, le grand voyage du général de Gaulle. Et là aussi, j'ai trouvé cette édition qui retrace tous les documents diplomatiques qui avaient été envoyés à l'époque. Et bien sûr, le discours du général de Gaulle au balcon du Palais National, « Traigo a México el saludo de Francia » et qui se termine par « Marchemos la mano en la mano ». Je vais vous amener maintenant dans un endroit que peu de personnes connaissent. Nous irons tout à l'heure dans le jardin Donc, la salle à manger, je traverse la porte. Et voilà les cuisines, avec le chef Christophe Vinet et son aide Géraldi. Alors, Christophe, qu'est-ce que vous nous préparez de bon ?
Alors, je suis en train de préparer des asperges pour les faire griller demain. Une petite salade d'asperges grillées avec accompagnée d'une vinaigrette miel noisette torréfiée et une petite tranche de foie gras poêlé et un sabayon de fruits rouges.
Ah, parfait. Christophe prépare des milliers de repas, petit déjeuner, déjeuner, réception, dîner, 14 juillet avec 700 personnes. D'accord. Et tout cela se fait ici. Merci, merci à Géraldi aussi qui apporte sa touche aussi de cuisine traditionnelle.
Alors ici, il y a également des œuvres de l'artisanat mexicain qui est tellement extraordinaire. Par exemple, un ananas du Michoacán. Mais il y a également d'autres objets, bien sûr, qui reflètent cet art extraordinaire que nous avons dans tous les États du Mexique.
Alors ici, nous avons d'ailleurs une collection d'images de la visite du général de Gaulle. Et là, on le voit justement sur le perron de la maison en compagnie du président López Mateo. Et là, le président, dans son grand discours devant le Congrès mexicain. Voilà aussi un portrait émouvant, puisque c'est un portrait qui nous a été donné justement par un ami mexicain et qui est un portrait qui avait été donné à la fille de Winston Churchill, donc de notre grand général de Gaulle. Je vous en prie. Donc, un petit salon d'appui et puis une salle de travail que nous appelons la salle des drapeaux. Pour les Jeux Olympiques en Paris 2024, nous avions construit deux friges pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors voilà une de nos chambres la plus belle, celle que nous appelons la chambre du ministre, refaite d'ailleurs avec de l'artisanat local, mais qui est travaillée en lien avec une designer, d'ailleurs des Gobelins, qui travaille avec des femmes qui utilisent les techniques traditionnelles de tissage dans le Chiapas. C'est créée de cette association qui s'appelle Caminos de los Altos, et avec ces magnifiques tissages. Donc voilà une des chambres. Alors, on dit qu'on aurait élargi le lit pour le général de Gaulle, mais en fait, j'ai vérifié dans le livre que nous avions, le général de Gaulle avait bien dormi à la résidence présidentielle de Los Pinos, donc il n'a pas dormi ici, mais c'est pas grave, la légende est là. Alors, allons maintenant dans le jardin. Bien sûr, un endroit merveilleux en plus avec ce temps ici au Mexique. Nous sommes très privilégiés d'être dans ce quartier de Las Lomas, ce quartier des Virreyes. Petit exemple de lien franco-mexicain, des hortensias de Bretagne avec les bougainvilliers ici qui sont toute l'année en fleurs. C'est absolument extraordinaire. Et c'est vraiment un jardin alors, qui sert énormément, bien sûr, nos relations bilatérales. Nous avons tout le temps des événements. Là, on peut inviter beaucoup de monde pour des conférences comme nous avons fait le 8 mars sur la journée internationale du droit des femmes. Nous fêtons des anniversaires pour des entreprises qui sont l'occasion pour elles d'inviter leurs clients. Bien sûr, le 14 juillet, nous avons plus de 700 personnes qui viennent. Beaucoup de nos partenaires, sociétés civiles, autorités, partenaires économiques, sociaux, droits de l'homme ou autres. C'est un outil. Comme l'est la résidence pour des événements plus restreints, pour pouvoir accueillir et pouvoir renforcer les liens entre nos deux pays. Et nous l'organisons tout le temps, en fait, pratiquement tous les jours. Il y a quelque chose dans cette résidence qui est aussi une vitrine de la France, une vitrine de la gastronomie française. Nous avons reçu le président de la République, Emmanuel Macron, le 7 novembre 2025, l'année dernière. Il y avait toute la communauté française qui était réunie, accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et de la ministre de la Culture, la ministre Léonore Carrois, en charge des partenariats internationaux. Et cette année va être également une année extraordinaire. Nous fêtons le bicentenaire de nos relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Et nous allons avoir énormément d'événements. Nous allons avoir un grand festival culturel, la Gran Fiesta Franco-Mexicana, à l'automne. et également une semaine économique de France extrêmement riche du 19 au 25 octobre. Nous allons avoir des événements, des colloques sur les questions de climat, les questions de santé, les questions aussi de droits de l'homme. Ce sera un moment où cette résidence, justement, va être vraiment ouverte sur le Mexique pour accueillir nos amis mexicains, nos amis français, bien sûr, et dans ce partage pour regarder cette histoire commune que nous avons et bien sûr regarder les 200 ans à venir.
Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai bousculé l'ordre chronologique. C'était en partie une erreur, mais en même temps, ça tombe très bien. Il nous reste deux présentations qui sont un tout petit peu en écho l'une avec l'autre. D'abord, notre ami Paul-Henri Giraud va nous parler d'Octavio Paz à Paris. Et puis ensuite, nous aurons notre ami qui nous parlera de la dernière œuvre de Le Clésio.
Bonjour et merci beaucoup, cher Dominique, pour cette invitation. Donc, comme vous le savez, Octavio Paz était un ami, un grand ami de la France et un francophile. Il était né en 1914 à Mexico dans une famille francophile qui lisait de la poésie française. Il a trouvé beaucoup d'œuvres dans la bibliothèque de son grand-père. Nous le voyons ici à 10 ans et à 17 ans, peu avant qu'il fasse la connaissance de celle qui sera sa première femme, Elena Garro, elle-même romancière. Il se marie juste avant de prendre le bateau à 23 ans pour aller en Espagne au congrès des intellectuels antifascistes où Paz, jeune poète Paz, avait été invité par Rafael Alberti, l'espagnol, et Pablo Neruda, qui était le grand chilien qui était en Espagne à ce moment-là. Donc, après la guerre d'Espagne, où Paz passe quelques mois, il ne combat pas, mais il fait des reportages, il écrit, il publie des poésies certaines engagées. Puis il revient au Mexique, évidemment en passant par Paris, à chaque fois, à l'aller et au retour, où il accueille un certain nombre d'intellectuels espagnols, républicains, comme ici Maria Zambrano, qui va vivre quelques années, la grande philosophe espagnole, qui va vivre quelques années à Morelia, avant de venir vivre à Paris après la guerre, où elle retrouvera Octavio Paz et fréquentera son appartement de la rue Victor Hugo, qui était un lieu de rencontres, de guitare, de poésie, de fêtes. Voilà. C'est aussi « The place to be », Paris, dans les années 45, c'est le moment de l'existentialisme. Ce sont les derniers feux, ou les dernières braises, plutôt, du surréalisme. Et on voit ici Paz, qui était passé par les États-Unis entre 42 et 45, arrive à Paris et dit aux États-Unis « J'ai compris que j'étais mexicain. » Et à Paris, j'ai compris que j'étais latino-américain. C'est à Paris, comme beaucoup d'écrivains latino-américains, qu'il prend conscience de cette fraternité continentale. Il est ici photographié avec le grand peintre péruvien, Fernando de Sislo, et son épouse à droite, celle qui deviendra la grande poétesse péruvienne, Blanca Varela, encouragée dans sa vocation poétique par Octavio. C'est à Paris que Paz va publier coup sur coup trois grands livres. Enfin, il va les publier à Mexico, pardon, mais c'est à Paris qu'il les finit. D'abord, Libertad bajo palabra, dans sa première édition, 49. Ici, nous avons la dédicace de son ami Julio Cortázar, qui est né comme lui en 1914, qui est comme lui venu à Paris pour... Alors Cortázar, vraiment pour épouser Paris, c'est là qu'il va faire tout le reste de sa vie. Et ils étaient très proches à ce moment-là, c'est donc cette communauté latino-américaine de Paris. Et donc, deuxième grand livre, 1950, El laberinto de la soledad, qui va révolutionner la pensée, mais aussi la littérature mexicaine, et qui va marquer aussi de grands esprits français, dont Edgar Morin, le regretté Edgar Morin, qui était un proche ami d'Octavio Paz. Et puis, l'année suivante, un petit grand livre, un grand petit livre de poèmes en prose et de contes, El Águila au Sol, pile ou face en français, ici illustré par Tamayo. Alors, on a ici une image très lumineuse du couple Paz-Garro, qui ne laisse pas soupçonner à quel point ce couple est tempétueux et déchiré à Paris, et donc il ne va pas tenir longtemps ce couple. Une des raisons des troubles familiaux, c'est peut-être que Paz va devoir partir de Paris. Nous avons ici Jaime Torres Bodet, qui entre 48 et 52 était ambassadeur du Mexique auprès, était directeur de l'UNESCO à Paris. Et Paz sous-entend que c'est peut-être à cause de cette présence de deux grands poètes mexicains à Paris qu'il a dû partir. Parce que Torres Bodet aurait dit dans un dîner, dans une ambassade, c'est pas bon qu'il y ait deux poètes. Alors, c'était pas la même ambassade, mais quand même. Et donc, Paz se voit envoyé en Inde pour ouvrir l'ambassade du Mexique, de l'Inde indépendante. Donc, il y part seul. C'est dur, mais c'est une découverte extraordinaire. Et ensuite, au Japon, là, il fait venir sa famille, la famille sera malade, etc. Il y a quelques péripéties familiales, mais ce qui apparaissait comme quelque chose de déchirant pour Paz, quitter Paris, est devenu en fait une ouverture extraordinaire, son ouverture vers l'Orient. Le revoici à Mexico pour s'occuper des organismes internationaux au ministère des Affaires étrangères, et avec une fécondité d'écriture, d'essais, de poésie, de traduction qui ne tarira pas. Mais finalement, il garde la nostalgie de Paris, il envoie ses livres en espagnol à Breton, qui n'isait pas l'espagnol, mais la femme de Breton pouvait lui traduire. Et vous voyez, la dédicace est en espagnol. Et revoilà Paz dans les années 60 à Paris. Il est assez grave, comme vous le voyez, mais il est là où il a envie d'être. Il est assez grave parce que la vie sentimentale n'est pas facile. Il voulait revenir à Paris, mais pour lui, la France est importante, mais les Françaises, c'est aussi important. Alors voilà Bona de Mandia, qui est une muse surréaliste dans l'amour libre du surréalisme. Donc Bona a été l'aimant qui a attiré Paz à Paris pendant ces années-là. Et puis Paz poursuit sa carrière diplomatique. Il va être nommé en 1962 ambassadeur du Mexique en Inde. Il va essayer d'entraîner Bona avec lui, mais ça ne va pas marcher. Il aura quand même eu le temps d'écrire un très beau livre d'amour, d'amour déchiré, déchirant, Salamandra, et la salamandre qui survit dans la flamme, c'est Bona, bien sûr. Voici donc Paz saluant le chef d'État indien, Nehru. Mais c'est en France qu'est publié, en 1965, le premier livre sur la poésie d'Octavio Paz. Et puis, c'est une Française que, finalement, Paz va rencontrer à New Delhi et qui va devenir sa deuxième femme, Marie-José Tramini. C'est en Inde que Paz continue d'écrire énormément et d'attirer des écrivains français, comme ici Bonnefoy. Et de retour d'Inde, il va publier, ou en Inde même, il publie des livres sur la France, sur de grands artistes, comme Marcel Duchamp, de grands philosophes ou penseurs, comme Lévi-Strauss. Et de retour d'Inde, c'est à Paris que, grâce à Gallimard, il organise une rencontre improbable entre quatre poètes, un Mexicain, Paz, un Français, Roubaud, un Italien, Sanguinetti, et un Anglais, Tomlinson, pour créer un poème collectif assez illisible, je vous l'avoue, mais incroyablement inventif et qui reste à explorer, Renga, un nom japonais pour un poème multilingue avec des sonnets où on mélange les langues et à droite la traduction en quatre langues suivant les éditions. Et puis, Paz, ayant démissionné de son poste d'ambassadeur en 68 suite au massacre de la place des Trois Cultures, Tlatelolco, le voilà libre. Le voilà libre pour voyager encore plus par le monde entier. Il est invité partout et en particulier ici à Harvard où il fait cours, mais il a ici à sa droite et à sa gauche deux poètes, un espagnol, le grand Jorge Guillén, de la génération de 27, et un français, le jeune Claude Esteban, qui va devenir l'un de ses principaux traducteurs. Et de fait, son grand livre, poème, essai, roman intitulé Le singe grammairien paraît d'abord en français pour la collection Les Sentiers de la Création chez Skira, avant d'être publié dans la langue originelle en espagnol au Mexique. Et c'est Claude Esteban qui a donné cette magnifique traduction. De retour au Mexique, Paz crée des revues, d'abord Plural, pour insérer, d'instiller un pluralisme dans le système un peu verrouillé du prix, et de la critique et de la littérature, de la passion critica, comme le disait Don Octavio, avec beaucoup d'amis, et en particulier beaucoup de Français, qui sont présents dans ces revues, ici Lévi-Strauss, Michaud. Dans la revue suivante, Vuelta, ben on voit à chaque numéro une trace de la France, ici André Gide, par Christopher Domingel Michael, qui sera la semaine prochaine au Collège de France, mardi à 15h. Ah, excusez-moi. Alors, on a vu passer le roi d'Espagne, mais très rapidement. Alors, ça, c'est la fin. Bon, excusez-moi, je vous dévoile les dernières images. Alors, voilà. Voilà, ensuite, les reconnaissances internationales pleuvent l'une après l'autre. D'abord, en 82, après le coup d'État, la tentative avortée de coup d'État en Espagne, la reconnaissance d'un grand penseur de la démocratie en la personne d'Octavio Paz qui reçoit le prix Cervantes des mains de Juan Carlos, puis le prix Tocqueville reçu des mains du président Mitterrand en 89. On voit que Paz est content de cette reconnaissance. Puis le prix Nobel en 90. Et c'est sans doute grâce à tous ces prix que Gallimard dit « Mais Octavio, on va faire une Pléiade ». Et donc, la Pléiade prendra du temps. Mais elle est conçue entre Mexico et Paris. C'est finalement Jean-Claude Masson qui en est le maître d'œuvre. Et on en a le magnifique résultat ici avec la liste de tous les traducteurs. C'est la poésie qui est mise en valeur à travers l'œuvre poétique et la réflexion sur la poétique. Et la dernière apparition publique d'Octavio Paz, ce fut en 96 à la Maison de la Poésie, passage Molière, rue Saint-Martin. Je me rappelle le taxi qui attendait pendant une heure, pendant que Octavio signait avec gourmandise tous les exemplaires qu'on lui présentait, et puis les amis qui étaient là, dont Cornelius Castoriadis. Après la mort de Paz en 98, une publication posthume à deux voix avec Marie-Josée qui est une artiste visuelle. Et donc Paz, comme dernière œuvre poétique, a voulu écrire des poèmes en lien avec les collages de sa femme. Ton visage, une main, de qui est-elle? La peau bleue, les ongles rouges, tient une palette. Je veux être visage, dit la palette, et la main la change en miroir. Et dans le miroir affleurent les yeux, et les yeux se font arbres, nuages, collines. Un sentier serpente entre la double rangée des allusions et des insinuations. Par ce sentier, j'atteins ta bouche, source de vérité toute fraîche. Je vous remercie.
Bien, et puis pour terminer, peut-être en apothéose, j'espère, nous allons écouter David Nolia qui va nous dire quelques mots sur le dernier livre donc, de Jean-Marie Leclésio. trois Mexiques.
Mesdames et messieurs, maintenant que le socle du monde vacille, dans le suspense et l'imminence, en ce moment d'une profonde noirceur qui nous entoure, le Mexique projette à nouveau, à travers l'exemple de ses artistes et penseurs, une lueur d'espoir. C'est pourquoi je veux bien commencer par ce tableau monumental de notre plus grand peintre mexicain à l'heure actuelle, Fernando Leal Odirac, qui nous honore ce soir avec sa présence. Cet énorme tableau est intitulé « End », la fin. Mais il évoque en même temps tout commencement, grave leçon à saisir. Feu et lumière, volonté et destin, il s'agit ici d'une énergie primordiale qui caractérise l'art et la pensée du Mexique. Par sa force et son éclat, le peintre nous offre à nous, les artistes et poètes contemporains, l'emblème de la tâche créatrice à laquelle nous sommes appelés. Il y a 100 ans, dans l'entre-deux-guerres, les surréalistes comme André Breton et Benjamin Perret s'étaient précipités au Mexique pour y chercher ce qui manquait si cruellement à la modernité. Mais c'est Antonin Artaud qui trouva peut-être le mot d'ordre. Il y a au Mexique, dit-il, une réalité dont il faudrait rallumer le feu. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau et périlleux carrefour qui est notre époque, car l'histoire aime les échos, c'est à Lucrezio de sonner le clairon de l'espoir, de nous parler de ce feu qu'on a intérêt à rallumer. C'est pourquoi notre présence ici n'est pas seulement une célébration littéraire entre la France et le Mexique, mais le début d'une ère nouvelle qui s'ouvre, celle d'une volonté de tracer ensemble une action où la culture redevient notre boussole. C'est bien cet enthousiasme qui fascine Lucrezio lorsqu'il médite sur la révolution mexicaine. Il est difficile aujourd'hui, dans un monde laminé par les désillusions et par la pauvreté culturelle grandissante, de se représenter les tourbillons d'idées qui enflamment Mexico durant les années 20 et 30. Tout est inventé et tout apparaît durant cette époque fiévreuse. L'art des muralistes au service du peuple, écrivant sur les lieux publics l'histoire tragique et merveilleuse du continent. Voici la Batalla de Junín, la fresque principale de l'épopée bolivarienne de Fernando Leal, père de notre maître, le fondateur et philosophe du muralisme mexicain. Bolívar, au centre, rappelle en même temps le Napoléon de David et la liberté guidant le peuple de Delacroix. La palette dominante est constituée par le bleu, le blanc, le rouge du drapeau français. Au-dessus du Libertador, les cinq belles républiques libérées, telles des muses, telles des valkyries, survolent la scène pour inspirer les combattants, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Et le gaillard guerrier indien à leur gauche, c'est l'esprit de la Gran Colombia, muni du bouclier mexicain de Quetzalcoatl et du glyphe aztèque de la parole, donc de la prophétie et de l'autorité. Dans les panneaux latéraux, vous trouverez les héros Morelos du Mexique et San Martín du Chili et l'Argentine. Voici donc le symbole de l'unité latino-américaine. Grâce au simultanéisme temporel, le peintre nous montre dans La Muerte de Bolívar que la lutte pour la liberté de l'Amérique ne s'est pas arrêté au XIXe siècle. Le Mexique a rappelé à nos frères du continent la profonde solidarité spirituelle qui nous unit. L'enthousiasme pour l'idée américaine surgit au Mexique dans toute sa vigueur. Alfonso Reyes. L'Ecclésio enchaîne son enquête sur les arts plastiques au Mexique avec une réflexion sur ses écrivains. C'est dans Juan Rulfo que l'Ecclésio reconnaît l'initiateur de la littérature latino-américaine contemporaine, mais il tient à montrer en quoi Rulfo est unique. La grande différence entre Rulfo et ses suivants, c'est qu'après Pedro Páramo, Juan Rulfo se tait. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a achevé sa reddition de contes et ce sera tout. Ce sera donc à travers la photographie que Rulfo trouvera un moyen d'expression alternatif à l'écriture. L'écrivain devient photographe. Cet homme qui a toujours refusé n'importe quelle position idéologique, car la douleur ne doit être au profit de personne, montre dans ses photographies une réalité qui ne demande pas d'explication, jugement ni compromis. Ce sont la géométrie, la lumière et les corps du Mexique, à la fois chair, paysage et pierre, qui trouvent en lui leur poète muet. Mais c'est une photographie en particulier qui attire l'attention de l'Ecclésio. Il s'agit de celle que Rulfo a faite de Clara Aparicio, alors sa fiancée, qui allait devenir son épouse de toute sa vie, datant de 1945. C'est dans ce portrait que Juan Rulfo exprime le mieux l'autre versant de son cœur, plein de douceur et d'imagination, et aussi dans les lettres qu'il écrit presque chaque jour à la femme qu'il aime. Clara, continue l'Ecclésio, se tient debout devant l'objectif, dans sa blouse suggestive, elle laisse voir le creux des clavicules, la partie la plus érotique du corps féminin. Elle a les yeux fermés. Dans ce portrait, une parenthèse existe dans l'incertitude de sa vie quand l'amour et l'art ne font plus qu'un. Ce moment critique d'une vie nous apparaît dans tout son mystère et fugacité, figé pourtant grâce à la caméra. Mais la présence qui ensorcelle littéralement l'Ecclésio, c'est sans doute Sor Juana Inés de la Cruz, notre poétesse du XVIIe siècle. C'est compréhensible, puisque nous sommes tous amoureux d'elle. Elle séduit autant qu'elle inspire le respect le plus profond, car elle est en même temps farouche et tendre, religieuse et courtisane, noble et quelque peu plébéienne, comme en témoignent ses cheveux. En un mot, elle incarne cette ambiguïté provocante qui fera son succès. Mais de cette personnalité étonnante, de l'une des plus grandes poétesses de son siècle, l'Ecclésio extrait ce qu'il appelle ses luttes, en montrant comment, à chaque étape de sa vie, elle a dû surmonter toutes sortes de barrières pour arriver jusqu'au sommet. Mais de quelles barrières s'agit-il et de quelle façon de les dépasser et de quel sommet? La lucidité, l'intelligence, l'amertume seront les exacts substituts au manque de sa naissance. Par là, on entend que la jeune fille métisse, née dans le monde rural des alentours de la capitale, s'adonne amoureusement aux lettres, de façon à se cultiver et à changer d'horizon. La voilà déjà à la cour de Mexico à 16 ans, admirée du monde, et la voici un an plus tard au couvent, à l'abri du mariage, libérée de la tutelle des hommes. Consacrée à son art et à ses études, bientôt viendront les sollicitations et les honneurs, la publication de son œuvre en Europe, la correspondance avec des éminences. Il faut penser qu'il n'était pas évident pour elle de sortir du village d'Amecameca, ni d'être acceptée à la cour dans l'entourage de la vice-reine, là où elle a connu l'apprentissage des sentiments, de leurs dérives dangereuses et de leur vanité. Ainsi que la vie selon le mode des aristocrates, avec prudence en développant l'art de se protéger et à la fois de séduire. Et il n'était pas donné non plus d'entrer en religion, la pureté de sang étant encore requise. Tout cela est bien davantage, elle l'a conquis par ses mérites, même les jalousies et la haine de la hiérarchie de l'Église qui ont fini par l'accabler. Pour elle, dit Lucrezio, l'aventure est encore plus téméraire parce qu'elle n'appartient pas à la classe régnante où les femmes peuvent s'illustrer par leur beauté, leur mariage ou la liberté des mœurs. Protégées qu'elles sont par le corset des convenances et le pouvoir illimité des conquérants, les gachupines. Elle n'a pour elle que sa fraîcheur, son courage et son goût pour le langage qu'elle utilise comme une clé pour ouvrir son avenir. Quant au sommet de son parcours, ambigu lui-même, il s'agit de la composition du premier songe, dont le thème est l'accès au savoir, seul rival de Solitude de Góngora. Après quoi, elle décide aussi de se taire, de faire son entrée en silence, d'abandonner l'écriture après ses rébellions contre les réprimandes de son confesseur. Le double mythologique de Sor Juana, naturellement, s'est Prométhée. Mais c'est un vol fatal vers le soleil, elle l'a parcouru sur les ailes de la poésie. Elle ne l'a pas fait, dit Lucrezio, pour emporter des lauriers. Elle l'a fait parce qu'elle a voulu, comme Juan de la Cruz, voir briller les mots, les images, les symboles, le feu de Bengale du langage. Elle l'a fait parce qu'elle a découvert très tôt dans son enfance que les mots, les images et les symboles sont les marchepieds pour atteindre Dieu. L'érudition de l'Ecclésion rend son portrait de Sor Juana vivant et comme inséré dans un décor richissime qui est celui du XVIIe siècle au Mexique. On y trouve les Indiens latinistes de la Nouvelle-Espagne, comme Antonio Valeriano, les danses et musiques du peuple qui ont fait s'exclamer Sor Juana « Je veux chanter une chanson métisse d'Espagnols et de Mexicains ». On y trouve aussi l'influence de Thérèse d'Avila et de Calderón de la Barca depuis la métropole. C'est comme si l'on voyait se dresser devant nous l'orgueilleuse cour du vice-royaume de Mexico, telle que l'on a parfois imaginé d'après le célèbre tableau de Cristóbal de Villalpando, vu sur la place majeure de 1695, l'année même de la mort de Sor Juana. Mais cet espace carré, qui est notre place majeure, le Zócalo, et le pays même, est pourtant devenu un ring de boxe, en même temps métaphysique et très réel, à l'intérieur duquel ont lieu les combats les plus dramatiques de notre histoire. Voici pour finir le tableau « La sombra y la noche »,« L'ombre et la nuit » de Léal Odirac. Et si l'on veut conjurer la violence et invoquer la beauté, seuls l'art et la poésie sauront apaiser les convulsions, la rage et les sévices qui nous rongent. C'est pourquoi on a besoin de l'esprit français, sobre, prudent et discret. Imaginez-vous tout ce que nous pourrons forger pour une nouvelle ère de paix et de culture avec le feu du Mexique et l'instrument de précision français. Merci.
Voilà, merci à tous de votre présence, merci à ceux qui vous ont enchanté par ce qu'ils vous ont raconté. Et maintenant, nous vous convions à descendre pour vous rafraîchir un peu et restaurer. En musique.